laboratoire qui ouvre ses portes comme chaque mardi. Vous êtes bien à l'écoute de Principes Actifs. Et ce soir, un laboratoire un peu spécial, comme vous en avez parfois l'habitude. Une petite carte blanche ouverte à un invité. Et je vais le saluer tout de suite, il est devant moi. Bonjour Benoît, Vincent.
Bonjour.
Bonjour. Un invité qui vient parler musique essentiellement, mais qui n'a pas que ça comme corde à son arc. Il est auteur, il est naturaliste, comme le dit la petite bio de du prochain livre qui va paraître, qui va être réédité chez Publi.net. Donc un auteur qui s'intéresse à la fois à la musique et à la littérature. Et on va avoir le temps dans cette heure et demie de s'en rendre compte.
Oui.
Bienvenue dans le laboratoire, Benoît.
Merci.
Alors peut-être pour rappeler un petit peu quand même. Les deux derniers livres que tu as publiés qui sont tournés vers la musique, on a Local Hero et Un de ces jours, qui sont deux livres à la frontière entre la fiction et l'étude d'un groupe en particulier. Alors, je ne sais pas comment tu te définis ça, parce que...
C'est difficile à définir, c'est présenté comme de la fiction, donc un travail littéraire, mais qui s'appuie essentiellement donc, sur la vie d'un artiste ou d'un groupe. Et dans ce cas-là, dans les deux livres que tu as cités, c'est du rock, il s'agit de rock, et peut-être qu'il y aura d'autres livres derrière, ou d'autres textes sur d'autres genres musicaux, je ne sais pas trop encore.
D'accord.
C'est un vaste chantier que j'ai entamé sur la contre-culture,
ouais.
Et que j'essaye d'explorer par ses principaux personnages, et notamment ceux du rock. Le premier livre, Local Hero, donc les titres sont en français, bien sûr, et s'appuie non seulement le titre du livre à chaque fois et le titre des chapitres sur des noms, sur les traductions des chansons, sur les traductions des titres des chansons des artistes concernés. Mmh. Donc Local Hero, c'est un livre sur la figure de Mark Knopfler, mmh. Donc le guitariste, auteur, compositeur de Dire Straits. Donc je parle de lui et de Dire Straits. Et le deuxième livre, Un de ces jours, s'attarde plus sur Pink Floyd. Et Un de ces jours, c'est la chanson One of These Days.
Ouais. On peut tout de suite déjà remarquer qu'il y a quelque chose qui est frappant dans ces livres, c'est que Tu as fait le choix de ne jamais citer les chansons, les titres d'albums et... Alors ça va pas jusqu'au nom des groupes, mais en tout cas tu choisis d'en parler, de les traduire, de les donner,
oui,
dans une traduction française.
Oui, effectivement. Alors pour Pink Floyd c'est plus compliqué parce que les textes sont bien meilleurs que ceux de Dire Straits, donc j'ai essayé pour Local Hero d'intégrer au sein du texte des morceaux, des passages, des chansons de Dire Straits. Pour Pink Floyd c'est plus difficile parce qu'il y a plus d'univers, d'imaginaire, et puis même la phrase est mieux construite, il faut quand même le dire. Voilà, effectivement j'ai ce parti pris, et récemment c'est vrai que je me suis dit qu'on aurait pu aussi traduire les noms des groupes, mais j'ai résolu l'affaire en me disant que c'était comme le nom d'un personnage, quoi, le Pink Floyd. Comme on pourrait pas traduire Roger Waters par exemple, ça serait un peu bête. Et Mark Knopfler, alors n'en parlons pas.
Mais ça fait quand même ça produit quand même un effet d'étrangeté, parce que
tout à fait.
Ces chansons qu'on a l'habitude de
qu'on connaît bien,
voilà.
Les Sultans du Swing, c'est sûr que c'est bizarre.
Oui, alors on peut citer aussi le flûtiste à l'orée de l'aube.
Oui, The Piper at the Gates of Dawn, oui.
Le premier album des Pink Floyd que tu traduis comme ça. Bon, j'aimerais que tu sois là, évidemment. Le grand Raoul Michel.
Oui, alors ça, c'était très compliqué. The Great Gig in the Sky, je me suis... Alors, parfois, j'ai pris un peu des libertés avec le texte, parce que, d'abord, parfois, comme on sait, les chansons du rock sont un peu légères, donc c'est pas toujours très, très heureux en traduction française. Oui, voilà.
Et puis, alors, je sais pas, je peux citer... Alors oui, effectivement, il y en a qui coulent de source. L'homme debout... En deux mots, debout, pour Mudman.
Oui.
Alors, j'ai bien aimé Careful with the Axe, Eugène, que tu as traduit par Gaffe avec cette gratte Eugène.
Ouais, alors, il y a une longue histoire derrière le titre, de son, sa naissance, son enregistrement, les différentes versions qui ont émaillé la discographie de Pink Floyd jusqu'aux années d'or, disons. Mm-hmm. D'ailleurs, ça c'est quelque chose, j'en profite tout de suite pour signaler pour les gens qui seraient intéressés par Pink Floyd, que le livre s'attarde et s'arrête, disons, à l'explosion du succès, c'est-à-dire il va jusqu'à Dark Side of the Moon, il va pas au-delà. Parce qu'à mon humble avis, après on passe dans une autre forme de Pink Floyd et c'est plus le même groupe.
C'est même plus le même rock pour le rock mondial, dis-tu, dans un passage, il y a une sorte de bascule à ce moment-là, on en reviendra peut-être.
Oui.
Bon. On se réserve ça pour tout à l'heure. Alors tu as donc une playlist que tu nous as concoctée. Oui. Et je propose qu'on commence tout de suite par le début.
Et, oui.
Et j'ai l'impression, enfin, je n'ai pas encore connaissance de tout ce que tu as amené, mais que tu as fait un espèce de parcours personnel.
Très personnel.
Dans l'abord que tu as eu de la musique.
Oui, tout à fait.
Alors on annonce le premier titre ou on le lance tout de suite?
On le lance tout de suite.
On le lance. It up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Alors celui-là, on n'ira pas jusqu'au bout.
Non.
Mais il marque quand même quelque chose.
Oui. Bon, j'ai souhaité commencer par ce morceau, Pump Pump the Jam de Technotronic. Mm-hmm. Parce que ben, je suis d'une génération, donc je suis né en 76, et quand on a commencé à écouter la musique sérieusement au collège, en 86, disons, parce que je crois qu'il est de cette année-là, ce morceau. Ben voilà ce qui régnait à l'époque à la radio beaucoup, à la télé aussi. C'était la techno européenne, qui venait souvent des pays de l'Est. Enfin, c'était un mouvement qu'on n'a pas du tout compris au départ, qu'on n'a pas cherché non plus à comprendre. C'est ce qu'on entendait partout. On faisait les soirées, il y avait que ça. Et à la radio, il y avait que ça. C'était avant même. Et donc on a grandi là-dedans et c'était très dur. Nous, moi et mes amis, on avait envie de musique et on vivait à la campagne et il n'y avait que ça. Et du coup, c'était très dur. Et on était très fâchés contre la techno. Et avec les années, je dois dire que moi, bon, sans doute par nostalgie, je me suis attaché à certains de ces morceaux comme celui-là que je trouve tellement, à la fois tellement ridicule et tellement bien fait du point de vue de la basse, etc., qui représente très bien pour moi ce que c'est une forme de contre-culture. Alors là, on est dans les marges de la confrontation, mais enfin, on est quand même dans la culture, disons, populaire ou populaire, oui, comme la pop, quoi.
Et parce que c'est déjà un succès d'année de choses beaucoup plus radicales qui avaient eu lieu avant,
sûr,
dans les années 80,
oui. Et après, il y a même certains rappeurs qui se sont intéressés de très près à ça, comme Max, par exemple, ou des choses comme ça. Je suis pas très, très... Mars, peut-être ça s'appelle.
Mars, oui.
Je suis pas très... Je connais pas très bien l'histoire, mais c'est très étonnant. Et donc, on écoutait ça de force. Et c'était, faut quand même dire que c'était avant Nirvana. C'est-à-dire que le rock était mort et enterré depuis belle lurette. Parce que on est passé juste après le punk et le post-punk. On n'a jamais entendu, en vrai. Et on n'avait pas encore le grunge. Donc c'était dur. Et puis, un beau jour, mon ami d'enfance, Nicolas, découvre dans un grenier une collection de vinyles assez importante de rock. Et notamment, dans ces vinyles, il y avait tout Pink Floyd de 67 à 73, 14, enfin, dans ces années-là.
Ouais.
Aussi, il y avait Dark Side, il y avait Wish You Were Here, tout ça. Et donc, c'était une révélation, parce qu'on avait bien sûr des vinyles à la maison, mais là, on s'est pris ça dans la gueule, on peut dire quand même. Et notamment, par exemple, ce deuxième morceau qui, pour moi... enfin, là, on est rentré dans un autre monde, vraiment. C'est, ouais. Il s'est passé quelque chose, ontologiquement, je dirais. Si tu veux le lancer tout de suite, et puis on en parlera après.
Oui, il commence tout doucement, il y a un petit fading. Il s'agit donc, bien sûr, de ce que tu viens de dire.
C'est génial, hein.
Ah, j'imagine le choc que ça a dû être, oui, par rapport à ce que...
Alors, c'est un instrumental, donc Up the Khyber, de Pink Floyd, qui est sur l'album qui est moins connu de Pink Floyd, qui s'appelle Mort, ou bande originale du film Mort de Barbet Schroeder,
ouais.
qui est un disque de transition dans la discographie du groupe, puisque, bon, Barrett est parti, cette fois-ci, il est bien parti.
Sid Barrett,
en fin 67, début 68. Il y a eu un album 68 où il est encore là sur quelques morceaux, A Saucer Full of Secrets. Et puis après, il s'en va vraiment et Gilmour intègre le groupe, le guitariste David Gilmour. Et Pink Floyd doit se débrouiller à faire quelque chose, quoi. Et Syd Barrett, c'était la mine, le puits des idées, de l'imaginaire et du son de Pink Floyd. Mmh. Et donc, il y a deux albums un peu expérimentaux où Maguma, qui est un double album avec une face live et une face où chaque musicien travaille tout seul.
Comment tu as traduit Maguma?
je l'ai traduit N'Golo N'Golo. Mais il faudrait expliquer, c'est très long. Ou Maguma, c'est une expression qu'on n'entend jamais, qui est une expression, paraît-il, de ce que j'ai vu des campus anglais. Pour dire, ben, comme N'Golo N'Golo, c'est-à-dire bon, avoir des relations sexuelles ou faire la fête ou des choses comme ça. Donc je me suis dit, comme il y a un côté un peu dialectal, tous les mots français que j'avais sous la main n'allaient pas bien, alors je me suis dit, allons... Et puis pour garder ce côté aussi rigolo du nom, quoi, du mot.
Okay.
Bon, j'ai vu que ça existait, en tout cas, c'était pas seulement dans les sketchs de la même époque, mais ça existait en Afrique, ce mot, ce terme. Et donc, voilà pour Maguma. Et puis il y avait un projet qui est né là dans la grande série de tous les projets avec disons extérieur à la musique de Pink Floyd, et c'était la bande originale du film Mort de Barbet Schroeder, un film donc sur l'époque hippie. Même si Barbet Schroeder n'est pas, à mon avis, vraiment un hippie, et Pink Floyd sûrement pas, et il s'en défendait même. Donc c'est un album très étrange comme cette chanson, donc qui est un instrumental avec ce son de batterie assez tenu. Et ces improvisations de clavier, et vous avez peut-être entendu comment le son passe de droite à gauche. Enfin, il y a vraiment un début de recherche, vraiment du son pur, quoi. Et c'est très étonnant. On est déjà même plus dans du rock là, finalement, quelque part.
Ah oui, non. On pense à des expérimentations de soft machine ou des choses qui,
exactement,
qui tendent vers le jazz.
Oui. Mm-hmm. Donc voilà, Up the Khyber aussi, c'est un titre pas difficile, pas facile à traduire, puisque c'est un passage de Khyber en Afghanistan, et je l'ai traduit... Bon, là, j'ai un trou, mais on en reparlera peut-être. Ouais. voilà.
Donc, est-ce que c'est par ce... J'ai l'impression que dans le livre, tu entames le livre par ce morceau, ou en tout cas par cet album-là et par ce film. Tu évoques, la Nouvelle-Guinée.
Oui, alors ça, c'est un autre film de Barbet Schroeder, postérieur, et dont Pink Floyd fera également la musique, qui s'appelle La Vallée. Et le disque s'appelle Obscured by Clouds, donc masqué par les nuages. Mais c'est effectivement le même genre, la même forme un peu. C'est d'ailleurs Pink Floyd, à ce qu'on sait, pour mort, a directement enregistré en voyant les images. Donc il y a vraiment un travail d'improvisation et de retravail par la suite. Et oui, ce qui m'intéressait dans cette période, en tout cas, de 69 à 72, puisque c'est celle-ci dont il s'agit, c'est que là, on a nos quatre personnages, nos quatre musiciens qui ont perdu leur mentor et qui doivent reconstruire quelque chose, une forme. C'est l'objet du livre, c'est un travail sur la forme, en réalité. Comme d'ailleurs, le livre sur Dire Straits était un travail sur la forme. Mais quelle forme? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Donc, on a essayé des choses dans Umaguma, et puis maintenant, on les applique. Et avant Dark Side of the Moon, qui est l'aboutissement de cette forme, l'aboutissement parfait, je dirais, essentiel de la forme, il y a beaucoup, beaucoup d'expériences, et les expériences, justement, cinématographiques, ou aussi de ballet avec Roland Petit, etc., permettent, ou le film à Pompéi, qui est aussi un autre moment clé, permettent de tester des choses un peu nouvelles, et c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Et dans ces deux livres, d'ailleurs, ce qui m'intéresse avant tout, c'est pas tellement le rock, la musique, l'aspect fanatique du truc, quoi, mais vraiment comment on cherche une forme dans une époque où les formes sont en pleine explosion et en pleine remise en question ou exploration.
Autant tu vas plutôt être un peu critique sur Dire Straits en disant que la forme, elle n'a pas été menée à son terme, autant pour Pink Floyd, tu vas jusqu'à donc parler d'aboutissement et de réussite pour...
Oui, c'est le... C'est pas pareil, les deux livres, de ce point de vue-là, effectivement. J'ai un a priori plutôt négatif sur Dire Straits, c'est plutôt positif sur Pink Floyd, ouais. mais j'ai essayé de l'expliquer par ailleurs, et dans cette série, il y aura peut-être aussi des textes plus théoriques, sur d'esthétique, en fait, sur la forme. J'ai commencé déjà à griffonner des choses. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans Mark Knopfler, c'est qu'il a tout pour réussir, il a un vrai talent musical, ça on peut pas le nier, il joue très bien de la guitare. Et il arrive à faire Money for Nothing ou Brother in Arms, qui pour moi sont des échecs formels.
Je lance quelque chose par erreur en tapant sur le clavier. Tout va bien.
En réalité, c'est un peu l'histoire du rock. Et c'est ça le côté un peu critique que j'ai a posteriori sur le rock. Et Pink Floyd, c'est bien les artistes de rock qui, à un moment donné, arrêtent de faire de la musique. Parce que quand ils continuent, et notamment dans les années 80, ça devient vraiment n'importe quoi. On l'a vu pour Dire Straits, mais pour tant d'autres. Et Pink Floyd aussi, finalement, dans les années 80, c'est pas très glorieux. Et en revanche, Pink Floyd, ils ont amené ce Dark Side of the Moon, qui est vraiment un chef-d'œuvre, on peut le dire. Enfin, je crois que c'est pas...
Qui est devenu incontournable,
et pour tous les gens qui font du son... Encore aujourd'hui, sur les machines numériques, ils testent les machines avec Dark Side. Ce qui est quand même étonnant, je ne sais pas, 40 ans après.
Très bien. Bon, la page Pink Floyd n'est peut-être pas tout à fait terminée, non. Mais on peut peut-être avancer dans ta playlist.
Oui. Justement, c'est... aujourd'hui, je viens de dire que j'avais un regard critique sur le rock, et j'ai beaucoup de mal à écouter du rock d'aujourd'hui, et de ce genre de musique, rock au sens très large du terme. Et ça m'arrive de plus en plus rarement d'aimer un disque. Et j'ai trouvé, il y a quelques années, ce troisième morceau, j'ai trouvé que là, il y avait une forme un peu particulière. Donc, si tu veux bien y aller.
Allons-y.
A foolish babe, the foolish babe. Did I did a foolish babe. My sugar veil. my sugar veins. Did I, did I, did I, did I, did I, did I, did my sugar veins. The foolish veins.
Je me souviens des cassettes, achetées sur les autoroutes des vacances, brûlées de soleil, qui résonnaient leur étrange plage inouïe dans la voiture suffocante. Puis les premiers disques compacts, mêlés, projetés de sommet en sommet dans les montagnes corses. La face cachée de la lune délayée en bord de mer. Je me souviens du concert du nouveau Pink Floyd sans Waters à Venise. Je me souviens du bordel de l'organisation et aussi du feu d'artifice. Je me souviens que j'avais acheté à Moscou le premier disque de Barrett en solo. Et dans les escaliers du Goum, les partitions photocopiées du dernier de Waters. Cela aidait le voyage.
Merci. J'avais sélectionné ces trois petits paragraphes que tu as bien voulu nous lire parce que tu fais une sorte de petit « je me souviens » à la Pérec et on peut faire encore un petit rappel donc, de Pink Floyd.
Oui, bien sûr.
C'est étonnant d'avoir acheté à Moscou l'album solo de Syd Barrett.
Oui, ouais, pour des raisons familiales, il se trouve que je suis allé à Moscou assez jeune. Et à un moment où j'étais dans Pink Floyd, pas mal, et là, les disques de Barrett avant les disques compacts, ou au tout début des disques compacts, ils n'étaient pas édités au départ, donc c'était dur à trouver. Et sûrement, on ne les faisait pas venir du Japon ou d'Amérique. Ouais. Et du coup, là, je l'avais trouvé, c'était vraiment une joie intense.
J'imagine.
On a donc entendu un groupe contemporain, alors c'est pareil, est-ce que c'est du rock, qui s'appelle Adult Jazz.
Frontière de plein de choses.
Ouais. Oui, et c'est vraiment une des rares nouveautés dans ce genre-là, disons, avec des vrais instruments, disons, plus ou moins, qui m'a beaucoup plu. Et comme tu le disais tout à l'heure, ce qui est étonnant, et c'est ce qui m'intéresse dans la musique et dans ce genre de musique, c'est la cohérence à la fois de la forme avec le propos artistique. Donc ça, c'est un des petits textes d'esthétique que j'essaye d'écrire. Et c'est justement pour pointer ce qu'on vient de dire, ce qu'on peut trouver chez Pink Floyd jusqu'à une certaine époque, et à partir d'une certaine époque, et ce qu'on ne trouvera jamais chez Dire Straits, par exemple. Mais je ne vais pas jeter la pierre que sur Dire Straits, si le rock est plein d'exemples ratés, de formes ou de propos incohérents. Quoi. Là, la cohérence, elle saute aux oreilles, si j'ose dire.
Avec une... moi, je trouve, dans ce groupe que j'ai beaucoup aimé aussi, il n'hésite pas à chanter vraiment avec un chant... parfois lyrique, parfois oui. Vraiment avec une force pas courante dans les groupes qui expérimentent comme ça, oui. Sur la forme.
On se refuse rien, on essaye d'explorer des territoires et Dieu sait si après 50 ans d'exploration sonore, il en reste peut-être pas beaucoup, mais enfin là, ils ont réussi leur cours.
Alors est-ce qu'on passe... À la suite, je crois que tu as envie d'évoquer un peu le jazz. Alors évidemment, là, il y a des morceaux qui sont un petit peu longs, qu'on passera peut-être pas jusqu'au bout, mais...
Ouais. Effectivement, donc, quand on a découvert Pink Floyd, parce que tout vient de là, tout de suite, le territoire qui est juste derrière, qui affleure, qui jouxte, disons, le rock progressif, si on voulait donner une catégorie. Moi, j'aime pas bien les catégories, de toute façon, les genres, mais... On passe, bien sûr, dans les parties du jazz proche du rock. Donc, à l'époque, c'était Miles Davis aussi qu'on écoutait, le Miles Davis rock ou jazz rock. Et par ce biais-là, on remonte l'histoire du jazz. Faut dire qu'il y avait quand même... On écoutait aussi beaucoup de rock plus classique, les Rolling Stones, les choses comme ça. Et c'est vrai qu'en 86, dans la Drôme, en campagne, on écoutait beaucoup de musique de Londres, des années 60. C'était vraiment bizarre, quoi. Et surtout qu'on n'était pas nombreux à faire ça. Et effectivement, donc on revient vers le jazz. Et là, le jazz, c'est beaucoup, beaucoup de choses à écouter. Donc c'est tout un catalogue, enfin tout un univers. Et bien sûr, on ne va pas ici faire... toute la liste, mais moi, ce qui m'a... Alors, avec beaucoup de temps, hein, parce que tout ça, c'est pas fait du jour au lendemain, évidemment, mais j'ai beaucoup aimé d'autres expérimentations. Donc là, j'avais amené ce petit morceau de Sun Ra, par exemple.
Oui. Qu'on peut lancer pendant que tu nous en parles.
Oui, ou... parce que très vite, ce qui m'a attiré... Tu peux le lancer, je pense, il nous en voudra pas. Ce qui m'a attiré très vite dans le jazz, c'était le free jazz, à dire la vérité, et j'aimais beaucoup les explosions à la Coltrane, à la Monk, tout ça. C'est ce que j'ai trouvé le plus proche, finalement, du rock, peut-être. Et j'ai beaucoup continué dans cette veine-là, Albert Ayler, Ornette Coleman. Bon, là, j'ai les noms. Oui. Et Sun Ra, c'est pas vraiment du free jazz, là, mais puis bon, il y en a marre des genres aussi. Et j'aime beaucoup cette élégance.
C'est un musicien qui avait tout un orchestre avec lui.
Oui, tout un orchestre. Ouais. Je dois avouer que je ne le connais pas depuis très longtemps, donc j'explore encore des choses.
Ouais. Beaucoup de choses ont été rééditées récemment.
Voilà.
De Sonarin, ouais.
Et c'est très très riche. C'est vrai. Enfin, il y a un vrai travail formel, encore une fois. Et moi, ce que j'aime chez lui, c'est son élégance. Il y a vraiment un truc qui est digne, je ne sais pas moi, de la littérature. Il y a un côté très... Il est très conscient de faire de la musique artistique, disons, soutenue, je ne sais pas comment dire. Mmh. Mais il le fait bien, quoi. Il le fait avec goût et il le fait avec passion, quoi, verve. Alors ça, c'est... je pense que c'est l'album qui s'appelle Nebians of Plutonia. Les noms de Sunra sont...
Nebians of Plutonia.
Voilà.
Ouais.
Qui est très, très beau... Et effectivement, les morceaux sont très longs, donc on ne peut pas tout écouter.
Bon, on va lui laisser la parole quand même.
Oui. Donc
moi ça me plaît énormément cette playlist parce que voilà, c'est le laboratoire.
Oui.
On passe d'un genre à l'autre et j'aime beaucoup ça, c'est parfait.
Le morceau qui devrait suivre que peut-être qui est un peu long, on va peut-être pas non plus l'écouter en entier quoi qu'il fait que 5 minutes 38 si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Toujours pour dans cette histoire de parcours musical il faut dire que notre source à l'époque, quand on était petit, c'était la médiathèque municipale. Et certes, elle avait un certain nombre de disques, mais on les a tous écoutés. Je pense que j'ai écouté tous les bacs de rock, de jazz, de blues et tout ça. Et il faut dire qu'à l'époque, donc, on écoutait aussi toutes ces, ce que je disais tout à l'heure, de rock et donc du blues et donc tout ça. Bon, et assez vite, on s'est retrouvé à chercher autre chose. Et très récemment, j'ai découvert un site internet qui présentait les listes de meilleurs albums de tous les temps. Enfin,
ouais,
bon,
ouais.
Et donc ça, on l'avait beaucoup fait par le passé, mais là, c'était des albums plus rares, des choses plus secrètes. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce japonais, donc qui s'appelle Osamu, si je dis pas de bêtises, Kitajima. Qui fait du free jazz, un guitariste, enfin du jazz, disons, avec un peu de, ouais, un peu free. Et il fait partie donc de tout un ensemble de disques que j'ai découvert, alors là, vraiment très récemment, de cette espèce de compilation des meilleurs disques des années 70, puis 80, puis 90. Et là, ça m'a ouvert vraiment un champ nouveau. Donc, si tu veux y aller,
on va écouter ça. Moi, je ne connais pas.
Woo!
戸田正樹を国の神へ。
Soit trop chronologique, je crois. Je me suis lancé dans une histoire personnelle, mais ouais. Ce morceau-là et les disques de Osamu, j'ai toujours du mal avec son nom,
Kitajima,
date de la fin des années 70, je crois qu'il fait tout, tout seul là-dessus, donc la basse, la guitare, etc. Oui, je ne veux pas faire trop chronologique parce que, enfin, comme dans la vie, plusieurs choses se passent en même temps et il y avait un autre filon qui est né dans, disons, dans l'adolescence, ça a été comment dire, l'époque de la techno, c'était aussi l'époque du rap, mais avant le rap il y a eu le funk que moi j'ai découvert après, quoi. C'est ça que je voulais dire, dans notre génération un peu bizarre là. Et tout de suite il y a quelqu'un qui m'a fasciné, qui était donc une espèce de moment de gloire à cette époque là et depuis ça s'est beaucoup gâté. Puisque c'était l'époque de Sexy Motherfucker et tout ça, donc Diamonds and Pearls et ces albums très très grand public, c'est donc Prince, comme on aura compris, et ben, si tu veux on peut lancer tout de suite ce morceau qui est encore un morceau long, mais celui-là j'aimerais bien l'entendre en entier parce que enfin, il représente exactement pour moi ce qu'est Prince.
Chocolate Invasion, l'album. On écoute Prince.
You've been bamboozled. Don't wait. Jump. You thought that you could put me down. Knock it away, your mind broke. You will fall, never get a second look.
Before me, there was nothing. Without the eye, you cannot see. Just a phone in the darkness. I brought the light and you believed. And with everyone, my creations, the future story will be told. Change it up with temptation. But all your claims must be sold. For every soul, there's a buyer. For every action, there's a price. For every option, there's a trial. But when the claim runs out, ain't nothing nice.
That's why you been
bamboozled. Good wit.
Of a fool, Pinocchio mentality. Oh, let How dare you call the robot Mecca? I knew that smack was jive. Step right up to the minstrel show.
Starts in about 5 minutes.
Confess these shuffling punks. Yeah, the one claiming no sin. Act the fool if you wanna. Guess the quickest way out. Tell him here's a way in.
Sambala.
Big Love, Maceo, Erica Badu, Chocolate Invasion starts here.
Quel morceau?
Oui, un morceau étrange.
Ah ouais, moi on se disait ça en hors antenne que Pink Floyd peut-être comme Prince avait réussi à montrer ce que était la musique progressive ou la musique funk au plus grand nombre. En même temps, là, on sent qu'il est dans une période où il est libre de faire ce qu'il veut.
Oui.
Et il part encore à la recherche d'autre chose.
Oui. J'ai vraiment une affection très très profonde pour Prince et surtout ses albums quasiment. J'aime beaucoup 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 de choses. Par contre, comme chacun sait, il a produit énormément de chansons et de disques. Et c'est très dur de choisir quelque chose. Alors j'avais plein d'idées. Il y a des choses en blues, il y a des choses en live, il y a des choses en électro même. Enfin, et puis sans parler du funk, du rock et parce que bon. Là, on a très bien entendu qu'il joue la guitare, la basse. Souvent, il fait la batterie. Enfin, bon, c'est Prince, quoi. On va pas épiloguer là-dessus. On a compris. Et ce morceau-là, il est intéressant parce que il est très changeant dans sa continuité. Il y a tout un travail vraiment de production, quelque chose qu'il avait peut-être un peu abandonné à un certain moment. Effectivement, comme tu disais, il était libéré là de tout engagement musical de contrat, disons. Mmh. C'était après toute la période de, j'ai plus de nom, je m'appelle l'artiste, je m'appelle tout ça. Et donc il a produit beaucoup de disques sur Internet. Il en a produit au moins 3. Et dans celui-ci, The Chocolate Invasion, qui est pas très connu évidemment, qui porte pas de tube, qui parce que Prince dans les années 2000 a complètement disparu des écrans radars.
Ouais.
Il a plus rien vendu. Il tournait beaucoup, mais voilà, il est revenu à la fin des années 2000, enfin un peu avant de mourir, enfin ouais, une dizaine d'années avant de mourir, un peu en grâce, mais c'est vrai que quand moi j'ai commencé à beaucoup l'aimer, plus personne l'écoutait, quoi. C'était alors qu'il produisait toujours, c'est ça qui était étonnant. Et bon, voilà, Prince, il faut le voir en concert, c'est énorme,
il fallait.
Et en plus, j'avais beaucoup d'affection pour son travail, mais quand il est décédé, vraiment, j'ai été très touché. Ça m'a beaucoup marqué parce qu'il était jeune, il était en bonne santé plus ou moins. Donc voilà.
Ouais.
Et j'ai choisi donc ce morceau particulier, Judas Smile, ouais, qui rassemble un peu tous ces styles quelque part qu'il a pu affronter avec cette guitare très rock, mais aussi la basse, les doubles basses ou les triples basses qu'il y a à la fin du morceau. Mmh. Bon.
Et cette petite teinte électro.
Cette teinte électro très bizarre qui est apparue là pour l'album Emancipation, je pense qu'il s'appelle, et qui est sur les derniers albums, les tout derniers, elle est très présente. Il a essayé de retrouver une espèce de style du début en minimaliste avec une machine simplement comme sur ces deux, trois premiers albums, sans toutefois toujours y parvenir. Et là aussi, c'est très intéressant et ce sera peut-être le troisième livre de la série.
C'est ce que j'allais te dire.
Ça sera peut-être Prince. Parce que lui, il a le talent évident, il a ce polyinstrumentisme bon que tout le monde connaît, il a cette capacité de produire des chansons géniales, et bizarrement, c'est un de ces artistes qui a pas réussi à faire un album qui soit l'album de référence. Alors il y en a quelques-uns, il y a Parade, moi c'est mon préféré, enfin je pense que c'est celui qui est le plus cohérent justement, les premiers sont bien, il y a Sign of the Times évidemment qui est très très bien. Et puis voilà, il aurait dû faire plein d'albums bien, mais non, il a pas fait cette, il en a trop fait, il s'est éparpillé beaucoup.
Mmh.
Il avait tous les moyens à disposition et un caractère sans doute particulier aussi.
Mmh.
Et puis ce talent qui dégouline, quoi. C'est un serial killer de la musique, quoi. Et on peut pas faire ça. Il faut se retenir, quoi. C'était.
Ouais.
C'est une logorée musicale, pour pas dire d'autres mots. Ouais. Vraiment, c'est, ouais. c'est bon.
Très bien.
Donc, ouais, c'est Prince. Et Prince, moi, m'a amené au funk directement par Graham Central Station, qu'on n'a pas écouté, qui faisait partie de la playlist, qui est donc l'ancien bassiste de Sly Stone. Parce que, bon, Prince, il a aussi tout un travail dans les années 2000 de récupération mémorielle, de se repositionner par rapport à la fois au nouveau qui lui marche sur les plates-bandes et comment, et, ouais. et depuis longtemps, le rap, même Kanye West ou Jay-Z ou des gens comme ça, ou Beyoncé. Et puis, son héritage, voilà, là, il a parlé de Erykah Badu dans la chanson, c'est étonnant, bon. Et il y a tout ce travail aussi mémoriel qu'il fait. Et donc, ce qui est génial avec Prince dans les années 2000 aussi, toujours, moi, c'est vraiment une période que j'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup tourné, il avait un line-up extraordinaire avec Maceo Parker quand même au sax, et John Blackwell à la batterie qui est très bien. Bon, il avait trouvé une petite équipe très très bien, et il a même joué donc avec le bassiste de Sly Stone pendant plusieurs concerts, quoi. Donc Larry Graham, c'est lui qui l'a amené vers les Témoins de Jéhovah, donc c'est aussi une histoire compliquée, ça.
Ah, je ne savais pas. D'accord.
Et oui, c'est pour ça que Prince ne refusait de se faire soigner et qu'il avait une maladie. Enfin, il s'était fait mal à force de danser sur des talons hauts pendant 20 ans. Il s'est fait mal à la hanche et il avait une hanche flinguée. Il n'a jamais voulu se faire opérer parce qu'il était Témoin de Jéhovah. Bon.
Okay.
Et c'est pour ça qu'il prenait ses cachets, visiblement pour raison pour laquelle, à cause de son décès, quoi. Et donc, il m'a amené dans tout ce monde-là. Et alors, Sly Stone, évidemment, bon, on le connaissait par Woodstock, par le rock, parce qu'il était là. Mais alors après, là aussi, il y a tout un territoire s'ouvre de la musique noire, funk, etc. Donc, Dr. John, que j'aurais pu citer, etc. Mais aussi le funk, et puis tout de suite après le rap, parce qu'il y a des liens très forts. Et si tu veux, on peut écouter le prochain morceau, qui est un rap assez court.
Ouais.
Je vais juste présenter que c'est sur une bande originale d'une série télé qui s'appelle Luke Cage, des super-héros à Harlem. Bon. Et par contre, la bande originale a été faite par Adrian Younge et Ali Shahid Mohamed, qui sont donc des anciens, l'un qui tournait avec... oh là là, alors là, je vais avoir un des trous. Le Wu-Tang Clan et l'autre avec Arrested Development.
D'accord.
Excusez-moi. Et donc, tout ce petit monde se côtoie et donc a fait beaucoup de bandes originales, même fausses. Et ils ont fait la BO donc, de cette série Luke Cage, qui est une série très centrée sur le Harlem noir d'aujourd'hui. Et ce qu'il y a de bien dans cette série, c'est qu'il y a un club dans la série et on voit venir des gens qui sont des musiciens qui viennent jouer en live. Et vraiment, dans la série, ils sont filmés en live, quoi. C'est très, très bien, ça. Et il y a ce rappeur que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Jidena. Et voici le morceau Long Live the Chief.
Niggas fighting over rings, niggas won't be the game, but long live the chief. For a little old thing, little boys bang, bang. Long live the chief. Niggas fighting over rings, niggas won't be the game, but long live the chief. Yeah, watch pretty mama while I slay my cane. Long live the chief. Cockroaches in the ratchet. Hand-me-downs with the patches. Mama put a little money in the mattress. Taught me how to make a silver spoon out of plastic. You can either sink, swim, or be the captain. Get the last word, I'ma get the last laughing. Now they say you're dinner while you're dressing so classy. I don't want my best dressed day in a casket. You can either leave, follow, or get out the way. Make a fucking move, it will make my fucking day. Got a 100-year plan, you just think about the day. Always been about time, more than been about pay. Gear up with me, Usain couldn't run with me. Chief come to find you, you don't come for me. At best, you could run a little company. Nigga, at worst, I could run the whole country. That's right, pimp game like a brothel. That's why I don't judge a nigga's hustle. I Airbnb the crib like a hostel. Summer rate cheaper, could the streets get hostile? Shot the boy, this far from a hobby boy. So no, I won't record for your homie boy. I turn the party out like a naughty toy. Then I go and hide in plain sight like a lobby boy. Yes sir, that's your dinner on the banner. Riding for my niggas, getting locked up in the slammer.
Elders saying everything's a nail to a hammer, and niggas can't spell, but we know our Instagrammer. Well done, better than well said. I read niggas well, a nigga well read. Really, I ain't met nobody smarter. That's why I got admitted, but I still rejected Harvard. I'm the Fresh Prince in a school where they couldn't read. Mama put me in a school with the Kennedys. When I met Bill Clinton, I was 17. But dead presidents was all my niggas need. Dining with the governor's daughter, and the father say I remind him of Obama. I'm the chief diplomat every day, and I'm black and white, Janelle Monae. They won't be the game, but long live the chief. For a little old thing, little boys bang bang. Long live the chief. Niggas fighting over rings, niggas won't be the game, but long live the chief. Now watch pretty mama while I slam my cane. Long live the chief. Niggas.
The ball, watch the way I climb around your hall, walking up walls, sideways and I stall, throw the web on you all, back up with a U-Haul, wreck your rep like Eddie on an LA strip with RuPaul, yeah you got the gall, a bitch in a shawl, rocking new mall, popping pussy, knocking niggas on brawl, talking about he got a crazy Benz, pouting fussy every second, where's the ATMs, when you peep at my shit, it's just a wavy lens, dose secondary, yo, do what I bake for the fake. Two shakes of scary spice and I'm off with the cake. On a rack for the track, let it cool off then black. Your whole crew want a snack after they nap, running up on me. But I told y'all kids, that's for the company. My symphonic monopoly philosophy sloppily edges notes awkwardly. Quarter to three, brass amp with a gas lamp. White wig, slang wolf gang. English chamber orchestrating a deadly banger. Cliffhanger, the stranger with anger. Prospect Park, the strangler. You couldn't catch me in the swamps. The six navigators, alligators, maps and calibrators. Yo priest, throw the shit that keeps them on their toes like ballerinas.
Ballerinas. It's the return. It's the return. It's the return. It's the return. It's the return of the prime time, that's cadet. You get pat, expect cassette, epithets. Epileptic ellipses, my thought eclipses, lapses in your fractal jelly jar. Czar, dictator, often imitated and hated by many. Judge me by my foes, judge me by my foes. Enclosed foes, judge me by the fact on the track. I reenact a fact that is only known in an intimate zone with a mic bone. I ignite tight poems. I'm known to write trifling poems on homes of grown kids with blown wigs. They live in cribs and sleep under stairs on chairs. Cheers. HP live like plants. Get your dance on. Put your fake eyes on. Try on. Cry on. My song. Sing about the freedom of my people. New Balance. Sneaker fever. Thunder receiver. 1, 2, 3. It's HP.
It's the return. It's the return. It's the return. It's the return.
It's the return.
It's the return.
It's the return.
It's the return.
It's the return.
It's the return.
It's the return.
It's the return.
It's the return.
Un morceau sportif. Un morceau ping-pong.
Oui, oui. Adrian Young, là, il travaille aussi avec Ghostface Killa, aussi du Wu-Tang Clan.
Ouais.
Et ils ont vraiment un travail, hein, tous les deux, vraiment énorme aussi à découvrir. Et quelque part, c'est un peu la version, disons, des anciens du rap. C'est quand même un peu âgé tout ça maintenant. Enfin, le Wu-Tang Clan et les autres aussi à cette développement.
Ouais, ils continuent un peu tous dans leur coin.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont toujours présents dans ces choses-là. Et de l'autre côté, on a enchaîné les deux morceaux, il y avait un Type Hop Consortium, alors ça c'est une autre version du rap, c'est un peu comme si on comparait, comme je le fais dans le livre, si on voulait, c'est bête de comparer, mais deux versions d'une même pièce, quoi, d'un côté Pink Floyd, de l'autre les Rolling Stones par exemple. Et là, c'est un peu pareil. C'était une version du rap plus classique, plus hardcore ou je sais pas quoi. Et puis des intellectuels new-yorkais, Anti-Hip-Hop Consortium, qui ont tout un travail aussi d'électro derrière. Ouais. Et d'être avec le free jazz, avec le jazz, avec Matthew Shipp, avec des choses comme ça. Et ça aussi, ben voilà, je trouve ça très très bien comme comme musique. Mmh. Très original et sans renier, bien sûr, les fondamentaux du rap, quoi.
Arrhythmia, le nom de l'album, déjà est...
Déjà est très bien.
Est très bien.
Ouais. Donc ça, on peut y aller tranquillement, les yeux fermés, il n'y a rien à jeter. Même les travaux solos des différents rappeurs sont intéressants. Peut-être tu peux... Enfin, ou alors, je peux dire ça, c'est que quand on écoutait de la techno, on avait une haine, c'était les instruments qui n'étaient pas des vrais instruments. Donc on écoutait du rock beaucoup et on faisait du rock et tout ça. Et il a fallu des années pour moi, pour mon oreille et pour mon ego, quoi, pour accepter qu'il y ait des instruments numériques ou artificiels. Donc je suis arrivé au rap très très tard, en particulier, et l'électro encore pire. Mais c'est vrai que, comme beaucoup de gens, quand l'école du micro d'argent est sortie, bon, moi, ça m'a fait un choc, je dois dire, et IAM est tout de suite rentré directement dans les favoris, quoi. Et en plus, ils ont continué derrière un petit peu, même si l'album reste une référence, je crois comprendre, pour tous les gens qui écoutent du rap, et même les tout-petits, les jeunes, que je croise des fois, les publics scolaires, pour le travail d'écriture, des ateliers d'écriture, ils connaissent l'école du micro d'argent, alors que peut-être ah oui. les trucs d'aujourd'hui, ils les ont un peu, ou c'est plus consommé, quoi, mais l'école du micro d'argent reste un disque phare, un peu comme certains trucs du rock qu'on pourrait imaginer, je sais pas moi, Marvin Gaye, ou pour de l'autre côté de l'océan, quoi.
Ah ouais.
Alors, je propose un petit morceau d'IAM très très bref sur un de leurs derniers albums qui s'appelle IAM, je crois.
Ouais.
Un moment où plus personne les écoute vraiment.
Oh. Écoutons ça, fuck le refrain.
Check, check, un, deux, ya, ya, ya. IAM est dans la place, représente mon crew. Tu vois, toutes ces conneries là. Bon, comment je peux commencer? Pas d'intro si faux, je commence à capella. Tu vois tout, mais tu te manques mon carmela. C'est pas avec ce son qu'on passera à la télé série. Sans les portes, nous on reste hors de la mêlée. Chez les idiots qui décident, ils pensent qu'on est fini. Un cold case comme ce flic à Philly. Quels sont les seuls qui peuvent cliquer sur un midi? Les MC les plus bad ici, une légende comme le Kid Billy. Oh yes, tu es le temps à zoner. De travailler sur des musiques, on voit la monnaie. J'ai pas le feu pour ça, épargnez-moi ta story. Rap mode, Gory, Def Jam, canal historique. Fais péter le vinyle noir ou le grenat. Inclus dans le paquet, c'est plus blessé la grenade. Repenti comme le trafiquant, Rick Ross, Fish ça, Bruce Lee du rap, Big Boss, yeah. Carnaval, t'as ton habit de fauve. Tu l'ouvres et t'es connex. Chris Cross, rien à prouver, la discographie parle pour moi. Pourquoi je me prends le chou, la vie c'est pas un tournoi. Flanqué donc le chou en kick au coupe-coupe. Quatre coins du globe comme un loup troupe. Spartiate dans la forme, pas de foufou. Terrestre extra, déboule avec sa soucoupe. Là, frère, je gère que du classique. Tu vois ce bras, c'est celui de Monsieur Fantastique. T'es pas très fut-fut, t'aurais besoin de malice. Ton destin je l'écris, appelle-moi Fatalis. Mais pas dans le détail, j'suis comme Attila. Et toi dans le bétail, tu suis le sillage. J'suis dans le massacre, pas de temps pour les gimmicks. Prends les cris, ouais, nous on garde les lyrics. Fuck le refrain, écoute le couplet. Fuck le refrain, écoute le couplet. Fuck le refrain, écoute le couplet. Plus la même, mec, qu'on parle poulet. Fuck le refrain, écoute le couplet. Fuck le refrain, écoute le couplet. Fuck le refrain, écoute le couplet. Plus la même, mec, qu'on parle poulet.
Fuck le refrain, IAM dans le laboratoire. Merci pour ce court morceau. Je pense qu'il y a beaucoup de choses de... Enfin, quand j'écoutais ça, fuck le refrain, cette façon qu'ils ont de souvent y aller comme ça dans la répétition et dans le fait de ne jamais s'arrêter, on a l'impression. Je trouve que c'est... Voilà, c'est un peu à l'image de beaucoup de choses chez eux.
Oui, oui. Ouais. Bah c'est le rap aussi qui comme le funk se fondé sur le rythme et la répétition.
Mais dans le rap plus récent donc, que tu évoquais justement, il y a peut-être moins ce côté-là.
Peut-être oui.
En tout cas dans ce qui est plus entre guillemets à la mode. Ouais.
Alors le rap effectivement, il y a eu un âge d'or des années 90 en France et effectivement on a eu vraiment de très très bons, on a de très très bons rappeurs et il n'y a pas de quoi rougir. Et bien sûr, Akhenaton, AKH, domine largement la scène par son flow, par son tout ce qu'on dit sur le rap. Et moi j'ai un peu décroché après parce que chaque fois que j'entendais des trucs un peu nouveaux, je trouvais que c'était pas à la hauteur de NTM ou IAM quoi. Et puis eux, ils ont fait leur carrière finalement, donc ils sont moins présents. Et puis il y a beaucoup beaucoup de trucs inaudibles. Alors vraiment bon. Et puis petit à petit, je vois que ça revient, quelque chose de plus, comme on dirait, hardcore est présent. Et donc ça fait plaisir parce que le rap en français, c'est vraiment super quoi, je trouve. Mais voilà, on va pas trop pas.
Alors on est peut-être à un moment où on bascule vers. Je regarde la playlist et je vois qu'on va basculer dans du rock pur et dur.
Ouais. Et même, on pourrait même, plutôt que celle que je t'ai dit avant, ouais. Dirty Work, comme ça ferait une belle deuxième partie d'émission. Donc.
Ça marche. Alors, on enchaîne par ça et on débrief après.
Ouais.
Let me dirt.
nous étions passés d'un autre côté de la musique.
Ouais, l'autre côté de la pièce de monnaie, disons.
Ouais.
Côté bien rock, alors là, c'était les Rolling Stones, comme tout le monde les a reconnus.
Peut-être bien, ouais.
Et alors, j'aime beaucoup cette chanson dans cet album, qui est un album honni par les fans des Rolling Stones, parce que c'est le moment où ils se séparent, en 86, donc tout le monde déteste cet album. Où, en plus, il y a des tensions très grandes entre Jagger et Richard. Mais on voit quand même que dans ces tensions, ils ont réussi à faire ce truc-là, c'est-à-dire un truc assez aride, âpre et énervé.
Ouais.
Le chant de Jagger est, à mon avis, assez, dans ce qu'il a pu faire de mieux, quoi, ce qu'il a pu faire de mieux. Mmh. Alors, c'est une chanson typique des Rolling Stones, courte, avec un solo pourri, une batterie qui tient la route comme d'hab, et surtout ce petit truc à la fin d'improvisation, on a l'impression, entre Charlie Watts et Mick Jagger, ce qui est quand même très étonnant. À une époque où tout le monde est fâché, où Charlie Watts tombe dans la drogue, quelque chose qu'on ne sait pas souvent, donc il commence à disparaître littéralement pour ses proches. Donc Jagger et Charles sont fâchés, ne se parlent plus et ne viennent plus, ils se croisent pas en studio. Donc on enregistre cet album qui est le dernier, disons, avant les retrouvailles de 89, dans la douleur, quoi. Il y a que Bill Wyman qui tient un peu tout ça, avec Ron Wood qui écrit même deux ou trois morceaux qui en profite. Voilà. Et pourtant, cet album est très bon parce que ça s'appelle Dirty Work, qui est la chanson éponyme de l'album, et c'est vraiment du sale boulot, quoi, parce que les années de succès sont vraiment loin derrière maintenant. Mmh. Ils savent bien que eux, ils se sont pris le punk dans la gueule aussi. Ils sont finis, quoi, et ils ont 45 ans, 50 ans, ils sont encore jeunes, hein, bien sûr, mais quand même, pour eux, ça sent quand même l'écurie. Et mais Keith Richards lâche pas le morceau, quoi. Il veut faire un album et il veut faire un tour derrière, et Jagger ne fera pas de tour derrière, mais bon. Et en tout cas, ça donne ce son très très colérique là que je trouve pas mal. Et finalement, l'album, l'air de rien, il a pas si mal vieilli. On est en 86, c'est-à-dire comme Technotronic, hein, quand même. C'est-à-dire le moment du désert musical du rock, en tout cas. Bon, et je trouve que ça représente bien les Stones. J'avais plein de choix pour les Stones, bien sûr, il y a tous les classiques, mais là, je trouvais ça pas mal.
86, pour moi, ça évoque aussi beaucoup de choses du côté de la pop. Est-ce que c'est un domaine où tu as exploré, où tu as des coups de cœur des...
Pas vraiment. Pas vraiment. Je suis mauvais auditeur de pop. Mmh. Ouais, on pourrait parler des disques et des groupes que je déteste, mais on va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps.
Très bien. Alors,
en 86,
creusons dans le rock. Alors,
ouais. En 86, donc on a le. Moi, comme je vous disais, je suis passé à côté du punk et bien sûr du post-punk, et c'est que très récemment. Cette chanson, d'ailleurs, je la dédie à Gilles, qui comprendra que j'ai, grâce à lui aussi, j'ai découvert tout ce monde du post-punk. Alors, il y a de tout là-dedans aussi. Et beaucoup d'expérimentations, ça j'aime beaucoup. Donc, on va écouter un morceau d'une compilation qui s'appelle The Akron Compilation. Donc là, plutôt, c'est du punk. Ça serait la ville où est né le punk, en Amérique, dans l'Ohio.
Donc, Rachel Sweet.
Rachel Sweet.
Qué lástima, oh, ojalá que se mejore pronto. Qué lástima, ojalá que se mejore pronto. You said that that boy has just set you free. Part-time lovers, blonde and cold. Drink your rum, take your soul. They're not so dumb. Che lastima, che lastima. Oh, alla che se me, oh, alla che se me. Che lastima, che lastima. Walk with provocative hips. Head takes a spin when they come to your lips. Tourist boys away from their mothers. Very expensive part-time lovers. London cold. Drink your rum. Take your soul. They're not so dumb. Thank you. free. I know how you feel, you did it to me. Tourist boys away from their mothers, very expensive part-time lovers, blonde and cool, drink your rum, take your soul down, not so dumb. Hey, la stima, oh, oh, I like to see me ore pronto. Hey, la stima,
Entertainment, l'album.
Ouais, il paraît que c'est aussi un album qui, pour la précision de la guitare rythmique, sert pour tester le matériel hi-fi. Oui, c'est étonnant. Donc, le morceau précédent, c'était Rachel Sweet sur cette compilation de Akron, là, la ville industrielle américaine, où serait né donc le punk, et non pas en Angleterre, comme on le dit souvent, ce qui est vraiment, là aussi, une drôle de nouvelle. Et le punk, bon, moi c'est pareil, comme d'habitude, il y a plein de trucs que j'aime pas, plein de trucs que j'aime beaucoup, et surtout quand il commence à laisser tomber le côté rock du punk, en fait, et aller vers l'expérimentation, comme Gang of Four est, même si c'est pas très très expérimental, est un exemple, quoi. Surtout Gang of Four, c'est très cohérent, alors là, du début à la fin, et il y a ce son très 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 précis. Et puis il y a tout le discours derrière, c'est un groupe très engagé politiquement, donc ça m'intéresse aussi. Mmh. Et voilà.
Très bien. Il nous reste à peu près deux morceaux, on va dire. On va se quitter avec en bouclant la boucle, mais d'abord, tu avais envie d'être encore plus éclectique, et ça me plaît bien pour le laboratoire, avec un petit morceau électro,
ouais.
Un italien.
Ouais, j'ai laissé tomber donc pour cette playlist les deux ou trois morceaux de musique de chambre que j'aime beaucoup, Harry Parch notamment et Henri Gorecki.
Tu reviendras.
Et je reviendrai. Et donc on va écouter Acide Paoli.
Allez. Bien, mais ce morceau était très beau. Acide Paoli, un petit mot sur ce morceau en particulier, Benoît ?
Non, sur l'électro, là aussi, encore tout un monde qui s'ouvre, comme je disais, avec mon retard à l'allumage. Ça représente très bien ce genre de musique, je trouve, Acide Paoli, et c'est très très bien pour écrire.
Et italien, et on rappelle que tu vis en Italie.
Oui, alors c'est ce qui est bien.
En tout cas, merci d'avoir fait. Alors, pas
merci
vraiment
à toi.
La route du but d'Italie parce que tu étais à Paris, mais
non.
Merci d'être venu pour.
Avec grand plaisir. Je reviendrai l'année prochaine.
Avec grand plaisir, oui, effectivement. Donc je rappelle ces livres que tu as publiés sur aux éditions publi.net. D'abord Local Hero sur Dire Straits et Un de ses jours sur Pink Floyd. Ce sont des fictions sur ces groupes. On l'a un petit peu dit tout à l'heure. Dans une collection qui publie qui a cette volonté de publier des choses sur le rock, qui s'appelle publi.rock, donc chez Publinet. Et je vais lire juste quelques lignes de celui qui est le directeur de la collection. Qu'est-ce que le rock ? Le rock, fondamentalement, c'est l'enfance privée d'innocence. Un regard de garnement sur un monde d'adultes fait de faux semblants et d'hypocrisie. L'insulte aux nantis d'une poignée de beaux gosses blancs aimant la musique noire, disait Yves Adrien. Yves Adrien qui est deux fois présent dans cette petite introduction du directeur de la collection.
Philippe Castelnau.
Voilà. On se quitte en bouclant la boucle avec dernier morceau de la playlist.
Oui, un de ces morceaux qui était sur l'album acheté dans le Goom de Moscou, Dominoes, un des chefs-d'œuvre de Syd Barrett. Bon, une chanson magnifique avec David Gilmour à la batterie, je crois, et Eric Wright, peut-être. Ça, je suis pas sûr.
Dominoes de Syd Barrett sur l'album Barrett. Merci encore à toi.
Merci.
It's an idea someday. In my tears, my dreams. Don't you want to see her prove life that comes of no harm? You and I, you and I, and dominoes, they go. Wasting time on dominoes. A day so dark, so warm. Life that comes with no harm. You and I and dominoes. Time goes by. Fireworks and eat someday. Cold as shell as tickle play. Overheard a lark today. Losing when my mind's astray. Don't you want to know with your pretty hair? Stretch out your hand, glad fields in an echo for you. Prove life that comes of no harm.